voudrais d'abord remercier la Casa Velázquez et Clara de m'avoir invité à participer un peu à cette journée consacrée à Jiménez, à la limite ceux qui que je connais peuvent se poser la question qu'est-ce que j'ai à voir avec Jiménez, et ce serait une bonne question. Mais ça rentre un peu dans des, disons, un intérêt personnel depuis quelques temps à ces relations entre l'Espagne et la Tunisie dans différents projets. Et quand Kala m'a proposé de regarder ce livre de contes, effectivement, l'intérêt a été double parce que n'ayant pas eu accès à toute cette œuvre de Jiménez dont on va parler toute la journée et de la richesse de cette... Je fais comme ça, peut-être mieux. La richesse de cette œuvre. Et puis, ayant lu les travaux auxquels on vient de faire allusion à l'instant par sur Alger, je pense que personnellement, j'attends avec impatience les publications ou l'édition de l'ensemble de ces textes et j'espère qu'on les verra bientôt. Pourquoi l'intérêt pour un personnage? Je crois que les chercheurs ont l'habitude de voir de temps en temps l'attention focalisée sur un personnage ou sur une idée. Et Jiménez, je parle, bon, il y a l'intérêt, mais aussi je pense qu'il y a une particularité à ces textes pour ce début du XVIIIe siècle et le personnage lui-même. Un passeur, comme dirait Jocelyne tout à l'heure, mais la posture des passeurs change d'un moment à un autre de l'histoire et de la manière dont il s'intéresse à la culture ou aux cultures auxquelles ils appartiennent. Pour revenir à ce propos d'aujourd'hui, je dirais l'intérêt pour ce livre de contes. Déjà, on est à l'intérieur de l'œuvre. On n'est pas au niveau de la réflexion générale sur l'œuvre de Jiménez. C'est un conte très particulier. Je ne rappellerai pas ce qui a été dit tout à l'heure sur la fondation de l'hôpital. Mais la question que je m'étais posée, dans quelle mesure ce livre de contes pourrait nous permettre de mieux connaître un peu, ou de nous aider à connaître un peu l'histoire économique de la Régence au début du XVIIIe siècle. Et je dirais, donc, on est au début de l'exploitation de ce livre, qui, effectivement, c'est un livre qui fait 360 folios, ce qui est énorme, sur une quinzaine d'années, 15 années et demie de compte de l'hôpital depuis l'arrivée de Jiménez à Tunis jusqu'à son départ. C'est vrai que, comparé, ou si on cherche au niveau des archives locales des témoignages de ce genre-là, on peut difficilement trouver en dehors des comptabilités de l'État. Je reviendrai un peu après sur cette question de la possibilité de comparer avec les sources locales. Mais c'est ça aussi qui attire l'attention. Je ne sais pas s'il faut appuyer loin, à peu près. Bon, peu importe. Je parlerai un peu plus fort, peut-être que oui, ça irait mieux.
Ça irait mieux.
Voilà. Ce livre de contes, comme on a l'habitude des gens qui travaillent sur l'histoire économique, c'est une source homogène. Effectivement, quand on la feuillette, c'est assez particulière. On a une comptabilité des achats de l'hôpital sur une quinzaine d'années, jour par jour. Ce qui est exceptionnel. Exceptionnel de trouver des sources de ce genre-là. Ce registre des comptes contient d'autres documents un peu préliminaires, comme l'a indiqué Clara tout à l'heure, sur la traduction à l'espagnol de la concession de Hussein Ben Ali, la donation faite aussi par le Bey à l'hôpital, le contrat de location, etc. Je passe là-dessus. Ce sont des documents, je dirais, annexes, mais qui, comme l'ensemble d'ailleurs de du registre de compte, au détour d'une phrase, au détour d'une indication, il y a plein d'enseignements, je dirais, précis, qui sont très intéressants. Tout à l'heure, Clara a parlé de cette année et demie de négociation où Jiménez allait au Bardo. Oui, Jiménez allait au Bardo, mais comment y aller? Il y avait son bourrico qui louait et passait la journée pour faire aller-retour avec toute une série de comptes sur ces questions-là. Mais quand on parcourt le registre, on voit aussi l'auteur adopter petit à petit le langage, des mots, un vocabulaire local dans son compte. Par exemple, tout ce qui est poids et mesure, c'est les poids et mesures locaux. Tout ce qui est, ou bien, par exemple, je retiens une indication, par exemple, il parle quand il évoque le problème de change d'argent de la faïda. La faïda, c'est quoi? C'est l'intérêt. Or, il aurait pu trier intérêt sur l'argent prêté ou emprunté à telle ou telle personne. Non, il emploie le mot arabe. Pourquoi? Est-ce qu'une manière de masquer, de dire qu'en homme d'église, il utilise un mot en arabe pour ne pas désigner l'intérêt? C'est possible, mais aussi c'est peut-être l'usage. C'est d'ailleurs la confirmation, entre autres, de l'existence du prix à intérêt dans toutes ces démarches. Et ainsi de suite. Il y a donc un travail même sur la langue du texte qui est assez intéressante, et je pense que l'éclairage peut être plus large quand on le remet dans le contexte de l'œuvre, dans son ensemble, parce que là aussi je pense que ce livre ne peut être compris ou analysé réellement qu'en le mettant dans le contexte de l'œuvre elle-même, ou ce que l'auteur écrit justement, parce que sur ses achats, sur ses contacts, etc. Qu'est-ce qui retient l'attention quand on lit ce texte? Il y a des questions plutôt sur le local lui-même, cet hôpital, on a parlé, c'est l'ancien bain d'un dignitaire local, mais aussi rentre dans toute cette tradition que l'hôpital n'appartient pas à l'ordre. Il appartient toujours à l'État de Nice, c'est une location. Ce n'est pas une vente, comme tous les consulats, comme tous les qu'on trouve dans l'Empire ottoman, etc. Le registre est intéressant quand on commence à l'analyser au niveau du détail. Et personnellement, dans cette première phase, je suis intéressé surtout, je dirais, un peu ce qu'il pourrait nous apporter pour la connaissance de un peu l'histoire d'alimentation. L'histoire d'alimentation à Tunis, à ce moment-là, ou disons au début du XVIIIe siècle. J'ai pris, selon la méthode classique, des échantillons, quelques mois, sur l'ensemble du livre, pour faire des tests, comment on peut analyser l'ensemble du travail. J'ai pris 4 mois, qui sont des saisons différentes dans l'année, juillet, janvier, mars, octobre, qui nous permettent d'avoir... voir s'il y a des différences d'approvisionnement, etc. Et aussi l'évolution dans la manière dont les achats se font. Et c'est là que, personnellement, j'étais un peu frappé par la ressemblance qu'il y a dans la manière dont ce livre a été tenu, et les produits qui sont achetés, avec ce qu'on trouve dans des travaux qui ont été faits sur des hôpitaux en Espagne, que ce soit Valladolid, que ce soit le travail de Bernard Vincent sur l'hôpital de... un article qu'il a publié en 1975 dans les Annales, et d'autres travaux. On a l'impression, oui, mais ce n'est pas une impression, c'est que l'auteur de ce livre, il fait exactement la comptabilité comme la forme on l'a fait dans ces institutions. Je dis ces institutions et je pense que la remarque a un sens. Ne l'oublions pas, nous avons affaire à une institution chrétienne en terre d'islam. C'est-à-dire qu'elle fonctionne selon la logique, la production d'archives ou de documents des institutions européennes, et qui fonctionne aussi dans un contexte différent. Et on voit l'impact un peu par la suite. Quels sont les produits ou quels sont les éléments qui attirent plus l'attention quand on regarde ces années? Il y a sept produits majeurs qui reviennent. Ici, je fais une remarque sur la manière dont la comptabilité est faite. Jusqu'en 1729, Jiménez, qui tient la comptabilité, il donne des produits en vrac, par catégorie, en donnant le prix. C'est intéressant en soi, mais parfois, ça limite la possibilité de, quand on fait des groupes d'aliments, fruits, légumes et ensemble, bon, on aimerait bien connaître quels sont le détail. Il mélange les dépenses ordinaires ou ce qu'il appellera plus tard lui-même les dépenses extraordinaires. Ce qui revient à l'alimentation, ce qui revient à l'équipement de l'hôpital, tout aussi. Par la suite, avec d'ailleurs le changement quand il s'absente et quelqu'un d'autre prend le relais, en 1729, la comptabilité change et on a les dépenses, je dirais, du quotidien et les dépenses extraordinaires qui apparaissent. Et avec en plus, je dirais, une manière de classer les produits différemment, produit par produit, et là on a plus d'informations et d'éléments susceptibles d'être utilisés pour mieux connaître à la fois la consommation, le prix dans certains cas. Donc c'est les sept dernières années du livre, je pense, qui sont plus riches à ce niveau-là. Alors quels sont les produits qui retiennent l'attention dans cette... Première chose, c'est la viande. La viande, tous les jours. Achat de viande, tous les jours. Pratiquement, 90% des jours comptabilisés, 124 jours sur l'ensemble, il y a de la viande. Les seuls jours où on achète moins de viande, parfois on n'achète pas, c'est le vendredi. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, on est dans une institution chrétienne en terre d'islam, vendredi, où par contre il y a d'autres produits qui apparaissent, on viendra plus tard. Consommation de viande, essentiellement de bœuf, peu d'agneau. Et là aussi, ça confirme ce qu'on a par ailleurs comme témoignage sur la consommation de la viande. Il y a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas longtemps sur cette question-là et montre l'importance de la consommation de la viande en milieu urbain. Je les précise, on est en milieu urbain. De bœuf, essentiellement, très peu d'agneau en milieu urbain aussi. Et là aussi, c'est une autre confirmation de ce qu'on connaît par ailleurs. Deuxième catégorie de produits, les légumes. Et là aussi, c'est pratiquement tous les jours. Tous les jours, des légumes qui apparaissent. Malheureusement, on n'a pas le détail de ces questions. Mais on sait par ailleurs, bien sûr, quels sont les produits, je dirais, qu'on peut trouver sur le marché. Sur cette question de légumes et de fruits, il y a une remarque quand même. Il y a un mois, c'est janvier 1728, où il n'y a pas la mention d'un seul fruit pendant tout un mois. De légumes non plus. Conditions climatiques peut-être, mais il y a des choses qui, comme ça, attirent l'attention pendant 15 jours, 3 semaines. Il y a le manque de produits. À Tunis, on connaît, ça manque. Peut-être que c'est la même explication, mais autrement. Et puis, bien sûr, la catégorie du poisson. En complément, le poisson, c'est le vendredi essentiellement, vendredi, samedi, c'est la grande consommation de poisson qui vient. Et en mars 1728, achat de poisson tous les jours. Ce qui est aussi une curiosité par rapport à l'approvisionnement de l'hôpital. Troisième produit ou troisième complément de cette alimentation, je dirais, de viande, ce sont du type de produits, c'est les œufs, effectivement, qui de plus en plus prennent la place dans les achats de l'hôpital. On arrive à pratiquement l'achat de plus de 700 œufs par mois, ce qui est quand même une quantité assez importante. Et Dans la même catégorie aussi de produits, c'est les viandes, je dirais, blanches, plus légères, comme le poulet, les pigeons, les poules, etc., et qui, par moment, sont achetées en grande quantité. L'approvisionnement aussi, de temps à autre, apparaît en viande de ce qu'on appelle la viande de cochon, la viande de porc. Question aussi, où sont élevés ces porcs quand on va à l'emplacement de l'hôpital ? Dans son magasin, ou un des magasins, peut-être ? Mais la rareté montre, que, je pense, que c'est un usage rare, qui arrive de temps en temps, mais ce n'est pas un usage fréquent. Par contre, et c'est là peut-être une sorte de créolisation, un peu de mode alimentaire de l'hôpital, après les années 30, une grande consommation des pieds de mouton. Des pieds de mouton, peut-être une tradition, je dirais, espagnole aussi, qui apparaît là, mais là apparaissent les pieds de mouton en grande, disons, de manière beaucoup plus fréquente. Autre produit c'est le vin. Le vin est acheté, mais pas en grande quantité, ce qui pose la question au vin de... Je pense qu'on est à faire plutôt un vin local, plus qu'un vin d'importation. C'est du vin blanc la plupart du temps, parfois du vin noir, comme on l'appelle, ou rouge, probablement acheté dans les bagnes ou dans les, qui produisaient eux-mêmes ou qui faisaient de la distillation des bagnes de captifs. Au niveau de la boisson, sans parler de l'eau. Et un produit que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est le pain. Le pain, effectivement, c'est un produit omniprésent, soit acheté en tant que pain, soit probablement fabriqué. Et je pense que l'hôpital s'est doté d'un four au bout d'un certain temps, et on n'achète plus de pain, on mentionne des produits qui permettent de le fabriquer. Mais une indication, quand le registre mentionne le pain, il achète près de 790 pains, ce qui fait quand même une moyenne de 25 pains par jour. Bien sûr, le problème se pose par rapport au nombre de malades, je dirais, qui sont entretenus à l'hôpital. Mais si on part, je pense que ce qu'on trouve un peu, une centaine de personnes qui sont entretenues, ça donne une ration alimentaire qui n'est pas aussi, je dirais, mauvaise que cela. Près de plus de 350 grammes par personne de pain ou de céréales par jour, c'est quand même une notion, une calorique assez intéressante. Et effectivement, quand on regarde les achats de céréales, quand il n'y a plus d'achat de pain directement, on retrouve effectivement des quantités qui confirment cette idée, autour de 350 grammes par jour par personne. C'est assez intéressant, et ça confirme un peu, personnellement je m'étais intéressé à ce problème de l'alimentation dans un travail ancien sur l'alimentation d'approvisionnement de Tunis, à partir d'autres critères je retrouve à peu près les mêmes proportions, ce qui je pense est assez un peu, je dirais, l'intérêt de cette comptabilité l'hôpital. À côté de cela, bien sûr, il y a des produits exceptionnels ou des approvisionnements exceptionnels. Rares pour certains, curieusement. Par exemple, l'huile d'olive apparaît rarement par rapport à, disons, un établissement en Tunis, mais qui est souvent compensé par ce qu'on appelle la manteiga, semaine, c'est le beurre rance, donc beurre rance plus pied de mouton, je ne sais pas si c'est très bien pour les malades, bon, de l'hôpital, mais toujours est-il que c'est ce qui est utilisé. Les épices, de tout genre, et épices, je dirais, journaliers ou épices exceptionnelles, poivre, cannelle, salpe ou girofle, peu de laitage, que ce soit en lait ou en fromage, mais par contre, présence du riz, ce qui est effectivement une des choses qu'on voit de plus en plus à Tunis depuis l'arrivée des Ottomans surtout, et de temps en temps, des achats exceptionnels, comme du bacalao, la morue, ou bien du hareng ou du saumon qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire on retrouve ça dans les importations depuis Livourne ou de Marseille de temps à autre, essentiellement à l'approche de la fête de Noël. On trouve ces indications. Et puis quelques produits de luxe qu'on voit, mais à petite quantité, comme le café. Le café, dans ces comptes, jusqu'à présent, du moins, je n'ai pas trouvé de chocolat. Peut-être après, on trouvera, mais des sondages faits, le chocolat, peut-être que Sir Jiménez se réserve le chocolat pour lui, mais de toute façon, pas pour les malades, je ne sais pas. Bien sûr, il y a des dépenses qui concernent l'hôpital. Des tissus, etc., des matelas, et puis de temps en temps l'achat d'une chéchia, l'achat d'un burnous, qui en va avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais tout ça, ce n'est pas destiné directement à, je pense, aux malades et à l'hôpital. Donc, quand on regarde un peu cette nomenclature alimentaire, on est pratiquement dans les mêmes types d'achats qu'on trouve ailleurs dans les institutions européennes. Mais il y a une question qui se pose toujours. Est-ce que la comptabilité reflète réellement ce qui est distribué aux malades? Ça, c'est une autre question. Parce que ce qu'on sait par ailleurs, à chaque fois qu'on a étudié les achats de ce genre-là dans les institutions, que ce soit dans les marines, que ce soit dans les institutions religieuses, etc., il y a une différence entre ce qui est acheté et ce qui est distribué réellement. Mais faisons confiance, disons, à Jiménez, disons qu'il distribue tout ce qu'il achète à ses malades. On verra, en fin de compte, si on arrive à... Mais, donc, une sorte d'approvisionnement qui, essentiellement, se fait sur le marché de Tunis, parce que ce qui retient l'attention, c'est qu'on n'a pas d'achat de provisions. Il n'y a pas de provision faite sur le long terme, c'est un achat quotidien. Il s'approvisionne quotidiennement sur le marché de Tunis avec la palette des produits saisonniers et des produits, je dirais, qui durent toute l'année, comme je dis, les trois produits clés, viande, pain, essentiellement, qui sont des fruits et légumes, qui sont la base de cette alimentation. Peu d'alimentation de luxe, sauf par moment. Alors, l'autre question qui se pose, est-ce que... ce qu'on trouve ici donne un régime alimentaire particulier. Bien sûr, il y a aussi des travaux qui ont été faits sur le régime alimentaire dans la Régence, que ce soit depuis les travaux de Lucette Valenzi sur l'article qui date de 75 ou d'autres travaux plus récents de Sinsit, etc. Ces produits qu'on a, on est en plein dans ce qu'on pourrait appeler le mal allemand, le régime alimentaire méditerranéen, des produits méditerranéens classiques, mais bien sûr qu'on peut assaisonner de différentes manières. Chacun peut les préparer différemment selon le contexte, selon les possibilités ou selon le dosage que l'on peut faire. C'est-à-dire, je suppose, si on peut imaginer des recettes de bouillon, des recettes de toutes sortes, mais on ne trouve pas, par exemple, dans les produits achetés de couscous. On trouve du smid, il n'y a pas de couscous. On trouve pas de recettes, je dirais, locales. Et je pense que au niveau de ce qui est distribué, ce sont plutôt une sorte de cuisine espagnole qui est plus présente dans cet hôpital que la cuisine locale. La dernière question, dans quelle mesure un registre de ce genre, une comptabilité de ce genre peut être intéressée ou peut être significative par rapport à l'histoire de l'alimentation locale? Elle l'est d'abord parce qu'elle existe. C'est un hôpital qui existe, qui achète des produits sur place, et ces produits-là, on les retrouve certainement dans les institutions, je dirais pas du même genre, mais des institutions locales ou chez le particulier dans la société tunisienne. Tout à l'heure, le nom de Saint-Gervais a été cité. Effectivement, quand on regarde, par exemple, Saint-Gervais, qui a donc été à Tunis pendant la même période, cite exactement les mêmes aliments, les mêmes produits. Alors, est-ce qu'il a fait comme d'autres? Il a pris ou il a regardé les papiers de Jiménez? Ou bien est-ce que c'est un double constat? Je pense qu'il y a des deux, parce que ce qu'on trouve là, on le trouve aussi ailleurs. Une autre possibilité de comparaison se trouve aussi dans les registres des dépenses du palais de Bardot. Le palais de Bardot tient aussi les comptes de Khaznadar, les dépenses de Khaznadar, et qui, à chaque occasion, que ce soit par exemple le Mouled, la naissance du prophète, ou bien les grands Aïdes, fait des achats et distribue à toute une série de populations, les proches, mais aussi les pauvres, etc., des produits alimentaires. Et malheureusement, on a l'impression que c'est le même type de comptabilité qui existe. On a les produits en vrac et le prix, mais on n'a pas le détail. Mais quand même, c'est assez significatif. C'est-à-dire que on trouve presque la même nomenclature de produits, avec un peu plus de produits, je dirais, basiques quand la distribution se fait au niveau populaire, les hersanet, les dons, et des produits un peu plus luxueux quand on les fait pour les familles proches de la cour, mais c'est la même nomenclature. Ce qui fait que, en dehors du poisson, ce qu'on ne trouve pas dans ces registres de Khaznadar, on trouve presque toute la palette des autres produits. Et dans ce sens-là, je pense que effectivement, l'analyse du registre peut être assez intéressante pour avoir une idée un peu plus complète, ou disons un autre aspect l'histoire de l'alimentation au début du XVIIIe siècle dans la Régence. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est le début d'une enquête. J'espère qu'elle donnera ses résultats d'ici un an et demi, quand il y aura peut-être une publication de ce travail. Et voilà.